Quand on regarde un film, on sait toujours à peu près où se trouve l'écran. La limite entre notre canapé et l'action, elle est claire, nette et surtout hyper rassurante. Mais alors, que se passe-t-il si cette ligne disparaît complètement? Si, genre, le faux sang d'un tournage devient d'un coup tragiquement réel?
Ah oui, c'est là qu'on bascule vraiment dans le cauchemar psychologique pur, avec tous les repères qui volent en éclats.
Exactement. Et aujourd'hui, on se lance dans un décryptage fascinant de la nouvelle policière, Coup double. Notre mission pour cette plongée, c'est de démonter la mécanique d'une arnaque machiavélique. On va voir comment une banale petite annonce de casting peut dégénérer en horreur absolue sans même qu'on s'en aperçoive.
Et d'ailleurs, ce qui rend cette histoire si dingue, bah, c'est pas le crime en lui-même. C'est vraiment l'arme qu'ils ont utilisée. Parce que les manipulateurs n'ont pas du tout forcé un coffre-fort, tu vois. Ils ont plutôt ciblé et exploité un ego surdimensionné.
Ouais, celui du personnage principal, donc Ludovic.
C'est ça. Le gars se prend vraiment pour un vrai pro du milieu. Mais bon, il tombe complètement dans le panneau de cette fausse société de production. Sody Film, je crois que ça s'appelle.
C'est ça, oui. Et le prétendu réalisateur le met en confiance avec des bouts d'essai complètement truqués. Genre un acteur couvert de ketchup, une fausse scène de meurtre. C'est fou parce que c'est un peu comme participer à un escape game ou une murder party.
Ouais, totalement.
Sauf que là, bah, les organisateurs auraient carrément remplacé les accessoires par des balles réelles, mais sans prévenir le joueur, bien sûr.
C'est une super analogie, ça. Ce conditionnement théâtral, il est juste redoutable, en fait. En l'habituant à des scènes violentes mais simulées, bah, il banalise totalement le fait de tuer. Et la vraie trouvaille des escrocs, c'est la carotte au bout du bâton.
Ah, la fameuse promesse de passer au JT de 20h.
Voilà. L'envie de briller est tellement forte chez lui que ça anesthésie toute sa méfiance. Il perd vraiment tout esprit critique face aux locaux qui sont miteux ou aux méthodes super bizarres du réalisateur.
Mais alors c'est là que je suis restée complètement scotchée personnellement. Parce que le jour du fameux tournage, Ludovic entre dans une vraie bijouterie de banlieue, il abat le bijoutier avec un silencieux et il prend les bijoux. Tout ça en étant intimement persuadé qu'une caméra cachée dans une camionnette est en train de filmer son jeu d'acteur.
C'est ahurissant de naïveté.
Mais honnêtement, comment c'est humainement possible, hein ? Je veux dire, il y a le choc physique, de larmes, et puis le bruit fracassant du vrai verre qui se brise. Et surtout, le regard de terreur bien réel de la victime. Comment notre cerveau peut-il occulter la réalité à ce point-là ? Ça me paraît dingue qu'il capte rien sur le moment.
Alors, je suis d'accord, ça semble complètement contre-intuitif, mais c'est vraiment un cas d'école de biais de confirmation poussé à son paroxysme.
C'est-à-dire ?
Bah, son cerveau est tellement enfermé dans ce scénario de gloire personnelle qu'il va littéralement tordre la réalité pour que ça colle à ses attentes. S'il voit la panique dans les yeux du bijoutier agonisant, il se dit pas « Mon Dieu, j'ai tué un homme ».
Il se dit plutôt « Waouh, ce partenaire de scène joue drôlement bien, quoi ».
Exactement. La dissonance cognitive est beaucoup trop violente pour qu'il admette la vérité crue sur l'instant.
Donc il reste dans son rôle jusqu'au bout, et le réveil brutal ne se fait que le lendemain, quand l'adrénaline redescend un peu. Il allume la télé pour savourer son quart d'heure de gloire, et là, c'est la douche froide. Les médias parlent d'un vrai meurtre sanglant pour un butant ridicule, et le pire, c'est qu'il qualifie ça de travail d'amateur.
Ah oui, le mot « amateur » pour un ego comme celui de Ludovic, c'est d'une violence inouïe. C'est vraiment l'aiguille qui vient faire éclater sa petite bulle narcissique.
Grave. On pourrait se dire que réaliser qu'on est devenu un meurtrier, c'est le fond du trou, mais pas du tout. Quand il essaye de joindre Sody Film, il découvre que les locaux sont vides et qu'ils vont être démolis. Et là, le téléphone sonne.
Et c'est le retour du mystérieux patron. Il réapparaît pour lui lâcher la bombe. Le braquage minable, c'était juste un écran de fumée pour l'appâter. C'est le vieux truc du prestidigitateur, en fait.
Attends donc, pendant que Ludovic regardait la caméra imaginaire de la main droite, la main gauche préparait la vraie extorsion. C'est ça.
C'est tout à fait ça. L'objectif depuis le début, c'était pas les quelques bijoux en vitrine. C'était carrément le compte bancaire occulte de son propre père qui est caché aux Antilles.
C'est d'une ironie tragique. Ludovic a non seulement fait tout le sale boulot de manière complètement irréparable, mais en plus, il a fourni l'arme pour le faire chanter par la suite.
Ouais, la caméra cachée appartenait bien aux escrocs, et maintenant, ils ont un meurtre en haute définition sous la main pour le tenir en laisse.
Donc, ils ont même pas eu besoin de le forcer.
Non, ils ont juste tendu la toile de sa propre vanité et il s'est pris dedans tout seul. Il savait très bien que son besoin viscéral d'attention le rendrait totalement aveugle au danger mortel.
Ce qui nous ramène à cette fameuse frontière invisible entre la réalité et la fiction. On voit bien à quel point ce désir farouche d'être sous les projecteurs a causé la perte de ce faux pro. C'est un crime parfait facilité par l'ego, en fait.
Carrément. C'est la vanité qui a servi de piège.
Et ça laisse vraiment matière à réflexion pour nous aujourd'hui. Dans un monde hyper connecté où tout le monde cherche son heure de gloire sur les réseaux, À quel point notre propre soif de visibilité nous transforme-t-elle en proie facile pour des manipulateurs invisibles ?
C'est la question qui fait froid dans le dos.